Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Le journal de la nuit, c'est maintenant avec Sophie Tussaud.
J'ai cette médaille enfin. J'y crois pas. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots.
La joie et la fierté de Clarisse Agbegnénou, désormais femme en or, la judoka française, a été sacrée ce matin championne olympique à Tokyo. Un Français sur deux désormais vacciné. Dans le même temps, la pression hospitalière se fait de plus en plus ressentir. Le gouvernement continue sa course pour freiner l'épidémie de Covid-19. Une embellie sur le front de l'emploi. Deuxième trimestre de baisse significative. Ce sont les demandeurs d'emploi qui n'avaient aucune activité qui profite le mieux de la reprise. Quelles ont été les failles qui ont permis aux partisans de Donald Trump de prendre d'assaut le Capitole à Washington en janvier dernier? C'est ce que tente d'établir la commission d'enquête parlementaire qui s'est ouverte aujourd'hui aux États-Unis. Correspondance à suivre. Le temps de demain avec le retour des orages, nous dira Marlène Duré en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux médailles de plus pour la France aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Tokyo. 7 au total. Du bronze en taekwondo pour Althea Lorrain dans la catégorie des moins de 67 kilos. Mais surtout, de l'or en judo. Clarisse Agbegnénou est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 63 kilos. Immense satisfaction de la Française.
Vous êtes prêts ? Elle est là ! Je suis tellement heureuse, tellement fière et je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos encouragements. Je suis tellement heureuse et je fais des bisous parce que je l'aime déjà. Je suis tellement fière, j'espère que ça a été pour vous, que vos cœurs ont tenu, que vos larmes n'ont pas trop coulé. Mais je tiens vraiment à vous remercier et j'ai hâte de rentrer à Paris pour fêter ça avec vous.
Et Clarisse Agbegnénou, désormais championne olympique de l'or, 5 ans après une médaille d'argent à Rio. Fierté et émotion dans son club de Champigny-sur-Marne, près de Paris, où Nicolas Feldman s'est rendu pour Europe 1.
C'est un rêve. On a eu les yeux qui ont pétillé et puis maintenant c'est le champagne qui pétille.
Une coupe à la main, Eric savoure enfin l'or olympique. C'est tout ce qu'il manquait à Clarisse, sa partenaire de club. Ce matin, tous les licenciés se sont mis à l'heure japonaise.
Ça piquait un petit peu. 3h30, on était là, on a fait le café. La salle était prête. C'était tendu jusqu'à la finale. Et ben voilà, elle est arrivée, elle a gagné. Elle a tout déchiré. C'est une championne, rien d'autre à dire.
Mathias Ricard est le préparateur physique du club. Il accompagne Clarisse depuis 5 ans.
Elle s'est mise dans des états plus compliqués que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est quand même énormément d'efforts, 5 ans, c'est long, c'est un sport qui est difficile, mais elle est revenue plus forte. C'est la patronne de la catégorie et maintenant elle rentre au panthéon du judo français et certainement le plus beau palmarès féminin.
Ces JO, c'est aussi une consécration pour tout un club, car hier, c'est une autre judokate maison qui remportait une médaille, l'argent pour Amandine Bouchard. De quoi faire verser quelques larmes au président du club, Philippe Sudre.
Bien sûr que je suis ému parce que quand je sais ce qu'ont fait ces athlètes, 2 médailles en 48 heures à Champigny. Sur Marne, ne serions-nous pas, en toute modestie, le centre du monde aujourd'hui?
De quoi donner aussi quelques idées aux plus jeunes. Léandre, 5 ans et demi, voit bien plus loin que sa ceinture blanche.
Moi, je veux gagner la médaille d'or quand je serai grand.
Alors, ce sera certainement un peu juste pour les JO de Paris, mais le club de Champigny se promet d'accompagner, de former de nouveaux champions pour briller à nouveau dans 3 ans.
Nicolas Feldman qui s'est rendu dans le club de Clarisse Agbegnénou à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Le gouvernement met un nouveau coup de pression pour que les Français soient vaccinés au plus vite. Un Français sur deux est désormais complètement vacciné contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé ce soir la Direction Générale de la Santé. 3 millions de rendez-vous seront ouverts dans les 10 prochains jours, annonce d'Olivier Véran, le ministre de la Santé qui était sur le terrain aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris et qui a tenu à rappeler que la pression hospitalière restait forte.
Ce que nous pouvons constater en France, c'est malgré tout une poursuite de l'épidémie avec une augmentation du nombre de cas d'une semaine sur l'autre. L'augmentation, vous l'avez peut-être vu, semble avoir ralenti, mais enfin c'est depuis 48 heures. Ça ne suffit absolument pas pour pouvoir dire que l'épidémie ou le pic serait derrière nous, loin s'en faut. Donc nous avons besoin au jour le jour de regarder les données, le nombre de contaminations, le nombre de tests qui sont effectués. À ce stade, nous sommes encore dans une épidémie qui est croissante avec une augmentation du nombre de cas. De la même manière, nous observons depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations. Je le disais, moins importante que lors des vagues précédentes, mais qui peut quand même devenir importante si nous n'y prenons pas garde. Donc encore un message de grande prudence, de grande vigilance. N'allons certainement pas considérer les choses pour ce qu'elles ne sont pas, en tout cas pas encore. Si les choses devaient évoluer, nous le dirions évidemment, et de toute façon ça se verrait puisque nous communiquons en transparence. Le seul message, c'est pour ne pas avoir à se poser ce type de questions, on se vaccine massivement.
Olivier Véran, le ministre de la Santé. Avec la crise sanitaire, beaucoup de difficultés économiques. Malgré tout, cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa baisse au deuxième trimestre. Et ce sont les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, qui ont le plus profité de cette embellie, moins 1,3%. Les concernant, une baisse qui s'établit à 0,5%, toutes catégories confondues. Emmanuel Dutheil.
On peut en effet parler de forte baisse et cette baisse est notable chez les plus jeunes. Si on ne regarde que le mois de juin, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les demandeurs d'emploi jeunes sont plus proches du niveau de chômage d'avant-crise que les autres catégories de la population. Il y a malgré tout plus de 200 000 chômeurs en plus depuis le début de la crise. Si on prend cette fois tous les demandeurs d'emploi et donc maintenant ceux qui ont eu aussi une activité très réduite ces derniers mois, la baisse sur le deuxième trimestre est moins forte, mais elle permet de passer sous un seuil symbolique, notamment sous le seuil des 6 millions de chômeurs. Il y a aujourd'hui très exactement 5 984 000 chômeurs en France. Généralement, on considère que cette mesure est plus représentative de la tendance. Ce qui est sûr, c'est que la vague de faillite et l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi à redouter au début de la crise ne se sont pas produites grâce au gigantesque plan d'aide. Reste à savoir ce que donnera la reprise avec les nouvelles mesures mises en place en raison de l'envolée du variant Delta.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Malgré cette reprise qui se dessine, il y a des secteurs qui restent très impactés par la crise et qui peinent à se remettre, notamment celui du loisir. Il est dorénavant nécessaire de présenter un pass sanitaire, ce qui complique les visites. C'est ce qu'a expliqué Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions, à la mi-journée sur Europe 1.
Les tendances aujourd'hui sont entre moins 15 et moins 50% suivant les sites. Évidemment, ce pass sanitaire, nous ne sommes pas forcément opposés. Nous sommes bien évidemment pour la vaccination. Mmh. Ce que nous contestons simplement, c'est cette mise en place précipitée au 21 juillet dans des sites qui sont par ailleurs souvent des sites d'extérieur, totalement sécurisés avec des protocoles qui ont démontré leur efficacité en 2020. Et avec des produits qui se consomment de manière impulsive, c'est-à-dire que les gens prennent la décision le matin ou la veille pour venir. Ceux qui viennent sont ravis de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup ne viennent pas et beaucoup de sites sont dans une détresse et une situation économique très compliquée.
Et vous vous faites insulter parfois par le public également, hein ?
Alors, on se fait effectivement insulter. On reçoit des messages très fleuris, nous disant qu'on est des collabos, que le pass sanitaire, c'est un scandale, que la vaccination, c'est un scandale. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Nous sommes pour la vaccination. Donc, nous sommes totalement délaissés et vraiment désespérés.
Arnaud Bennett, président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions, invité du journal de la mi-journée sur Europe 1. Également, dans l'actualité, cette bijouterie Chaumet braquée à Paris, près des Champs-Élysées. L'auteur des faits s'est emparé d'un butin évalué entre 2 et 3 millions d'euros. Il est arrivé jusqu'à la boutique en trottinette. Il a fait irruption dans la célèbre joaillerie vers 17h avec une arme de poing avant de se faire remettre des bijoux et des pierres précieuses. Tout cela sans violence. Le braqueur a ensuite réussi à prendre la fuite, également en trottinette. Rachida Dati, rattrapée par l'affaire Carlos Ghosn, l'ancienne garde des Sceaux, a été mise en examen jeudi dernier pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir. Elle était visée par une enquête du parquet financier sur ses prestations de conseil auprès de l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, entre 2010 et 2013. Aux États-Unis, près de 7 mois après l'attaque du Capitole, la commission d'enquête parlementaire entame ses travaux et pointe une volonté de faire dérailler la démocratie. Le 6 janvier dernier, des partisans de Donald Trump prenaient d'assaut le siège du Congrès à Washington durant la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. 4 membres de la police ont commencé à nettoyer, à témoigner devant les élus. Il s'agit de faire la lumière sur les événements et les failles de sécurité ce jour-là. Les policiers interrogés ont déjà livré des témoignages édifiants. Alexis Guilleux.
Oui, et c'est le symbole de l'extrême violence à laquelle les forces de sécurité ont dû faire face le 6 janvier. Aquilino Gonel est sergent de la police du Capitole. Il a été le premier à s'exprimer ce matin. Ce à quoi nous avons été confrontés ce jour-là ressemblait à une bataille médiévale. Nous nous sommes battus au corps à corps, centimètre par centimètre. Les émeutiers criaient « Trump nous a envoyés ». Je me rappelle m'être dit, c'est comme ça que je vais mourir. Michael Fanon a lui été violemment agressé le 6 janvier. Cet officier de la police de Washington avait été appelé en renfort, frappé et tasé par la foule. Il a perdu connaissance pendant plusieurs minutes. Aujourd'hui, il dénonce les républicains qui ne reconnaissent toujours pas les faits. Ce qui est encore plus difficile et plus douloureux, c'est de savoir que tant de mes concitoyens, y compris tant de personnes pour lesquelles j'ai risqué ma vie, minimisent ou nient carrément ce qu'il s'est passé. L'indifférence manifestée à l'égard de mes collègues est honteuse. Alors cette commission suscite toujours des divisions politiques aux États-Unis. Elle est boycottée par le Parti républicain. Deux conservateurs ont bien accepté d'y siéger, mais ce sont deux élus qui ont déjà pris leur distance avec Donald Trump.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce drame en Allemagne, une explosion sur un site d'entreprise chimique à Leverkusen. Le bilan fait état ce soir de 2 morts, 5 disparus et 31 blessés. Retour en France avec ce coup dur fiscal à présent pour les propriétaires de résidences secondaires. Plusieurs villes ont décidé de fortement augmenter leurs taxes d'habitation les concernant. Une hausse autorisée par la loi si le marché de l'immobilier y est tendu. Les propriétaires concernés vont pouvoir s'attendre à payer par endroit jusqu'à 60% de plus, Maud Descamps.
Tout à fait, c'est le cas à Lyon et à Bordeaux où la municipalité vient de voter une augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, des villes où il existe un manque de logements. L'objectif est donc de convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché. Audrey Hénoc est adjointe au maire à la mairie de Lyon.
Le premier objectif, c'est vraiment qu'un certain nombre de résidences secondaires, donc on en a environ 15 000 puissent repasser en résidence principale, parce que pour nous, un logement, c'est avant tout le lieu où habite une famille ou une personne à temps plein.
Grâce à cette hausse, la municipalité devrait empocher 3 300 000 euros de plus par an. Et puis, il y a aussi de plus petites communes comme Saint-Julien-de-Chédon, dans le Loir-et-Cher, 750 habitants, qui a augmenté cette taxe. Le maire Michel Leplat espère libérer des logements et faire venir des familles essentielles à la vie du village.
Et ça nous permet d'essayer de sauvegarder notre école. C'est pour ça qu'on a voulu aussi ramener cette équité un peu fiscale en disant, voilà, ben cet effort, tout le monde va le faire pour que la commune puisse continuer à bien vivre, quoi.
Sachez aussi que certains maires se mobilisent pour qu'une nouvelle taxe soit également appliquée aux logements vacants.
Maud Descamps. La direction la Charente-Maritime à présent, où vient d'arriver le Belém, le plus vieux voilier d'Europe. Il était immobilisé depuis des mois dans le port de Cannes à cause de la crise sanitaire. Et après quelques jours en mer, ce trois-mâts du 19e siècle classé monument historique se trouve en ce moment à La Rochelle. Les vacanciers peuvent l'admirer et le visiter jusqu'à demain soir, et ça, sans passe sanitaire. Reportage de Laura Taouchanoff.
Bienvenue à bord du Belém, permission accordée.
On embarque à bord d'un immense trois-mâts, autrefois un navire marchand pour transporter du cacao. Roland et Marie-Claire se laissent porter par son histoire.
La boiserie est raffinée.
Dans l'ancien temps, peut-être que ce n'était pas les mêmes conditions que maintenant.
Il faisait bon y vivre, on ne devait pas se rendre compte systématiquement qu'on était sur un bateau, partant calme évidemment.
De leur côté, Paul et Mathis, eux, préfèrent garder les pieds sur terre.
Ça doit être assez spécial la vie dedans. Je suis bien chez moi, petit canapé, j'aime bien mon confort.
J'ai déjà vu Titanic et j'ai pas envie de faire pareil.
Si on veut rencontrer le commandant de bord, il faut descendre dans son salon privé.
C'est une des pièces les plus historiques à bord dans le mobilier, étant donné qu'ici, rien n'a changé depuis 1914.
On s'assoit sur de vieux fauteuils en cuir fixés au sol pour les tempêtes. Un retour en mer très attendu par Aymeric Gibet après des mois à quai à cause de la crise sanitaire.
C'était essentiel pour nous, pour le savoir-faire, pour notre motivation. C'est une chance extraordinaire d'avoir cet outil transgénérationnel qui, sans le Belém ou de quelques autres navires, serait complètement perdu.
Je vous souhaite une excellente visite, mesdames.
Merci.
La Rochelle, Laura Taouchanoff, Europe 1.
On l'appelle Nitzabella et elle porte très bien son nom. La ville de Nice sur la Côte d'Azur, célèbre entre autres pour sa promenade des Anglais, intègre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été reconnue au titre de ville de villégiature d'hiver de la Riviera. Un mot de football avant de passer à la météo. Raphaël Varane quitte le Real Madrid après une décennie passée dans la capitale espagnole et un palmarès XXL, Ligue des Champions en tête. L'international français va relever un nouveau défi à Manchester United. Il nous reste donc à voir le temps de demain. Une nouvelle dégradation orageuse se profile à l'horizon, Marlène Duret.
Oui Sophie, la nuit s'annonce arrosée dans le sud-ouest jusqu'à l'Auvergne. En cause, des averses orageuses en provenance d'Espagne. Elles sont en train de remonter et elles peuvent être soutenues par moments. Elles s'évacueront demain progressivement vers les Alpes et l'après-midi sera à nouveau ensoleillé de la vallée du Rhône à la Méditerranée. En revanche, le temps restera nuageux au sud de l'Aquitaine et du Midi-Pyrénées. Le nord et le nord-ouest retrouveront quelques éclaircies mais il faut s'attendre encore à des averses. Quant au reste du pays, eh bien, on profitera d'une journée calme, plutôt agréable entre nuages et soleil. Côté température, c'est un peu frais pour une fin juillet. Les maximales ne dépasseront pas les 19 degrés du côté de Cherbourg. Il fera en général 20 à 26 degrés, sauf près de la Méditerranée où l'on prévoit toujours 27 à 33, 33 en Avignon.
Merci Marlène Duret. Et on jette à présent un coup d'œil à la une de vos journaux demain. Une femme en or, main sur le cœur. Et Clarisse Agbegnénou en une de Libération, car les femmes sont en forme olympique à Tokyo. Les Jeux sont les premiers à accueillir quasiment autant de femmes que d'hommes. Et les nouvelles disciplines comportent tout un programme féminin. Mais les polémiques sexistes demeurent, notamment sur les tenues genrées. L'opinion revient sur le pass sanitaire, le service minimum des députés à l'REM. Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été adopté avec une faible mobilisation de la majorité. Une désertion d'une partie du groupe que le début des vacances ne suffit pas à expliquer. À la une des Échos, le risque d'une reprise mondiale à deux vitesses. Le FMI revoit à la hausse la croissance mondiale pour 2022, mais elle sera inégalement répartie entre les pays les plus vaccinés et les autres. Joe Biden empêtré dans les divisions de l'Amérique, titre Le Figaro. Le président démocrate espère enrôler les républicains dans son vaste plan de rénovation des infrastructures. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, tant les désaccords sont nombreux et profonds. Et puis La Croix propose un dossier, se nourrir, un défi croissant, une réalité, car la communauté internationale se mobilise autour de la flambée des prix alimentaires qui met en difficulté des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.